Les discussions du soir. Les discussions du soir. Chaque lundi, Frédéric Vorm se pose son regard de philosophe sur les grandes problématiques qui s'imposent à notre société.
Ce soir, je suis très heureux de recevoir Michela Marzano, professeure de philosophie à Paris 5 et députée au Parlement italien. Bonsoir Michela Marzano.
Et bonsoir Frédéric Vorms.
Je vous ai présenté en vous accueillant dans cette conversation que je suis vraiment très heureux d'avoir ce soir avec vous, avec deux casquettes, ou deux foulards, ou deux vestes, je ne sais pas comment il faut dire. L'une de philosophe, professeur en France, venue d'Italie, et l'autre de députée italienne, revenue de France en fait, puisque vous êtes toujours professeur à Paris 5, à Paris Descartes, donc quoi de plus parisien que Paris Descartes. Mais évidemment, je voudrais commencer par le rapport entre ces deux casquettes, et d'abord, et peut-être le rapport entre ces deux casquettes et un même problème, qui serait finalement le double rapport au monde ou à l'événement ou à l'actualité qui traverse ces deux rapports, si on choisit d'être philosophe et aussi la philosophie que vous pratiquez, c'est-à-dire des questions sociales, des questions vitales, des questions médicales, contemporaines, d'un côté, et si on choisit par ailleurs un engagement politique, c'est dans les deux cas parce qu'on a un rapport à l'actualité. Alors comment est-ce que vous voyez ce rapport à l'actualité dans ces deux lieux, dans ces deux mondes, dans ces deux costumes, j'allais dire, dans ces deux activités, Michela Marzano?
Frédéric Vorms, ce n'est pas si facile que ça concilier la France et l'Italie, l'Italien et les Français, la philosophie et les parlements. Et j'ai découvert que parfois j'en demande un peu beaucoup trop à moi-même.
À qui? À votre corps ou à votre vie, à votre travail, à votre pensée?
À tout ce que vous venez de dire, parce que mon corps, il commence à céder. D'ailleurs, j'ai vous disais avant que l'émission ne commence que j'avais l'oreille qui bouchonnait à cause des avions que je prends toutes les semaines. Donc mon corps se fatigue, mon esprit aussi, parce que j'ai découvert que ce n'est pas si évident que ça, passer d'une langue à l'autre. En fait, j'ai découvert le entre. Ah, c'est-à-dire, je suis tout le temps entre les Français et l'Italien, ce qui fait que quand je parle en italien, je fais des gallicismes, et quand je parle en français, je fais des italianismes. Donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et puis, il n'est pas évident de passer des cours avec des étudiants en première, deuxième année, troisième année, quatrième aussi, à l'hémicycle. Alors avec les étudiants, on doit avoir une attitude plutôt pédagogique. Dans l'hémicycle, il faut surtout éviter cette attitude pédagogique, chose qui n'était pas évidente au début, parce que j'avais tout le temps tendance à vouloir reprendre les collègues parlementaires parce qu'ils ne s'exprimaient pas bien, et donc vouloir les reprendre en rappelant parfois les concepts de la philosophie. Et puis je me suis vite rendu compte qu'il fallait éviter de sortir cette autre casquette quand j'étais au sein du Parlement. Et puis, il y a la fatigue de la vie privée, parce que du coup, mon mari, je ne le vois pratiquement pas. Soit je suis à l'université, soit je suis au Parlement. Alors, pour quelqu'un qui a écrit un livre sur l'amour en disant l'amour est tout, disons que je me sens un peu en contradiction avec moi-même.
Donc, c'est plus difficile que prévu d'être dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait être aussi, et c'est certainement aussi intéressant et même indispensable, au fond, d'être entre plusieurs choses, entre plusieurs rôles, même entre la vie qu'on dit privée, le travail, etc. Mais en étant entre une activité politique et une activité pédagogique, ça devient difficile. Et finalement, entre ces deux rhétoriques, entre ces deux activités, il y a une tension et votre corps la porte. Alors, vous avez beaucoup travaillé, d'ailleurs, sur le rapport du sujet au corps, et c'est toujours un peu un signe, quand même, quand le corps commence à... Donc, de quoi est-ce le signe? Est-ce que vous aviez été trop présomptueux? Mais est-ce que c'est un peu individuel ou est-ce que c'est un problème plus structurel d'une contradiction de plus grande que prévu entre la politique et la pensée, entre ces deux dimensions?
Alors Frédéric, moi je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire, d'une part, j'ai cru que j'ai trop demandé à moi-même, mais quelque part, c'est mon problème de départ. Ça, c'est les thèmes que j'ai abordés dans Légère comme un papillon, c'est-à-dire la possibilité de vouloir être tout et son contraire. Et j'ai continué à rester dans cette attitude. J'arriverai à tout faire, il suffit de vouloir, etc. Tout ce que je dénonce après. Parce qu'évidemment, les corps,
Oui, vous aviez déjà demandé à votre corps beaucoup, et dans ce livre, vous aviez déjà réfléchi de manière critique sur les limites,
sur le fait
de ne pas trop demander à son corps.
Absolument, et donc du coup, mon corps, là, il est en train de me répondre, t'avais bien raison à parler des limites, je suis ta limite. Mais d'autre part, il y a aussi la question théorique, c'est-à-dire parfois la distance qui existe entre la politique et la réflexion, parce que de plus en plus, la politique est devenue une forme d'action sans réflexion, et donc la réflexion, c'est quelque chose qui gêne. Et puis d'autre part, la différence qu'il y a entre une réflexion théorique et la nécessité de traduire par des éléments de loi la réflexion théorique. Donc, bon, moi, je fais partie de la commission de justice.
Donc, il y a une tension structurelle, finalement, entre le discours politique et le discours, sinon philosophique, du moins pédagogique, théorique, qui explique les raisons, qui prend le temps de la réflexion, qui prend le temps de la démonstration, de l'explication. Toutes ces dimensions qui, dans l'action politique, sont menacées, alors.
Sont menacées et parfois bafouées aussi. Voilà, on avait déjà assisté en France, à l'époque, de Nicolas Sarkozy, on avait entendu les discours qui consistaient à dire, bon, on a suffisamment pensé, désormais il faut faire. Et je me retrouve en Italie avec un président du Conseil qui a exactement les mêmes discours. Ça suffit de réfléchir, maintenant nous devons faire. Le problème est que à chaque fois qu'une réforme est votée, alors souvent je ne suis pas en accord avec les partis démocrates, mais bon, à chaque fois qu'une réforme est votée, il y a comme un trou de réflexion. Et donc, on se rend compte que les choses ne sont pas bien faites. Enfin, moi, je les vois surtout par rapport au sujet que je suis en train de suivre, hein, parce que moi, je fais partie de la commission justice.
Au Parlement italien.
Et donc, finalement, c'est un peu dans les continuums de ma réflexion philosophique, parce que j'ai suivi et je suis en train de suivre tous les projets de loi qui ont concerné les unions civiles. C'est un peu les parallèles de ce qui s'est passé en France avec les mariages pour tous. Et puis, la loi sur l'adoption et tous ces thèmes qui ont des liens avec des questions politiques, mais aussi éthiques profondes. Et je vois qu'à chaque fois qu'on essaye d'avoir un discours qui vise, par exemple, l'égalité entre personnes indépendamment des différences des sexes, d'orientation sexuelle, des genres, etc. Et puis, on est confronté à la nécessité de trouver un accord politique qui, parfois, a tendance à bafouer les principes d'égalité.
Mais donc, c'est un peu frustrant pour vous, Michela Marzano, puisque finalement, je pense que vous étiez sans doute engagée en politique avec l'idée... avec quelle idée d'ailleurs vous allez nous le dire, mais avec peut-être l'idée quand même de compléter votre engagement philosophique, de le mettre un peu en œuvre, avec une occasion sans doute qui s'est présentée, surtout sur des questions sur lesquelles vous aviez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé sur effectivement les questions aux frontières du vital et du social, du médical et du politique, la question du donneur de sperme, la question des couples, la question de la paternité, toutes ces questions qui maintenant dans tous les pays d'Europe font l'objet de discussions politiques, législatives, parfois violentes. Et donc, vous aviez sans doute l'espoir de concilier les deux discours. Et finalement, c'est encore plus violent de voir cet espoir, disons, j'espère pas entièrement contredit, mais quand même contredit non seulement structurellement par une opposition entre des régimes de discours, ça pourrait se comprendre, mais maintenant revendiquer politiquement la rupture des deux. Donc ça contredit votre intention.
Alors là, oui et non. C'est-à-dire, bon, d'une part, moi, je n'avais jamais fait de la politique dans le sens actif du terme.
Qu'est-ce qui vous y a amené alors, Michela?
Une demande directe de la part de l'ancien secrétaire du Parti démocrate, donc Pierluigi Bersani, qui m'avait appelé en début janvier 2013, parce que les élections ont eu lieu le mois de février 2013, et qui m'avait demandé, en 24 heures, je devais donner ma réponse en disant oui ou non, oui, si j'acceptais de mettre mes compétences philosophiques éthiques au service du Parti démocrate et au service de l'Italie.
Donc c'est ça que je voulais vous demander justement, sans indiscrétion, hein, vous nous dites tout ce que vous avez envie de nous dire, mais justement c'est bien en tant que philosophe que le Parti démocrate italien est venu vous solliciter.
Oui, il est venu me solliciter en tant que philosophe italienne qui avait quitté l'Italie pour venir en France, mais qui en même temps avait recommencé pendant les dernières années, depuis 2010, à travailler aussi au sein du débat public italien. Moi, j'avais
Parce
jamais
que vous
rencontré
une chronique dans un journal.
Moi, je suis encore aujourd'hui éditorialiste à La Repubblica, donc j'interviens sur les thèmes qui sont les miens. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout Pierluigi Bersani quand il m'a appelé, mais j'ai découvert qu'il me lisait dans La Repubblica. Et donc, il m'avait demandé d'accepter. Et à ce moment-là, moi, je dois vous avouer que la toute première réponse que j'aurais voulu donner, c'était de dire non, je suis très bien là où je suis. J'ai quitté l'Italie et je vis bien à Paris avec mes étudiants, avec mon mari, avec mon français, enfin les français que j'avais appris entre-temps. Et puis, ça a été mon mari qui m'a dit, mais non, tu ne peux pas, c'est ton pays qui t'appelle. En fait, tu ne peux pas oublier non plus les faits que tu viens de là. Et si on te demande de mettre au service de ton pays tes compétences, c'est ton devoir d'accepter.
Un pays qui vous appelle avec, en plus de multiples raisons, des compétences qui... Enfin, voilà, une compétence philosophique, une expérience internationale, européenne, et une compétence aussi sociale, déjà d'engagement. Un engagement quand même, le lien entre la réflexion philosophique et puis des questions sociales. Donc ça, c'est vrai que ça faisait beaucoup de belles raisons, beaucoup de belles intersections, aux espaces intermédiaires, et ce entre était quand même très tentant. Il est peut-être devenu difficile, mais il reste très, très important. Ça incarne aussi tout ce qu'il faudrait pouvoir faire.
Oui, alors après, ça a été un peu plus compliqué que prévu, parce qu'évidemment, on est confronté tout le temps aux barrières du réel. Et là, les réels, c'était un parlement où, justement, la réflexion n'importe pas énormément, mais surtout, il y a eu un problème. C'est-à-dire, on n'a pas gagné, en tant que parti démocrate, les élections.
Donc ça, c'est un problème politique.
C'est un problème politique, mais qui n'a pas donné suffisamment de place à Pierluigi Bersani. Et par ailleurs, ce n'est pas un hasard que, quelques mois plus tard... On a eu un changement à la direction du parti avec l'arrivée de Matteo Renzi. Alors désormais, en France, tout le monde connaît Matteo Renzi. Moi, je l'ai connu aussi, et je ne sais pas si dire heureusement ou hélas, mais en tout cas, la vision de Matteo Renzi n'était plus du tout la même que Pierluigi Bersani. Matteo Renzi, c'est l'homme du fer. Ce n'est pas un hasard que j'ai fait un rappel tout à l'heure en parlant de Sarkozy. Et donc, il a décidé que certaines questions ne l'intéressaient pas beaucoup. Donc, il y a eu un télescopage entre un problème politique, mais qui devenait aussi un problème au sein du Parlement, c'est-à-dire l'effet que les compétences des intellectuels, et moi, je n'ai pas été la seule philosophe à avoir été sollicitée.
Vous êtes beaucoup de philosophes au Parlement italien ?
Il y en a 4 ou 5 quand même. D'accord. Bon, moi, je suis la seule qui ne travaille pas en Italie, mais les autres sont aussi des philosophes, donc c'est plutôt des philosophes politiques, qui des philosophes moraux comme moi, mais on avait été sollicité justement parce que Pierluigi Bersani avait envie d'un changement. Donc du coup, ces mouvements s'est un peu arrêté. Et puis, bon, en même temps, ce sont des choses qui arrivent. Et j'ai découvert aussi la beauté du travail parlementaire, parce que jusque-là, j'ai dit toutes mes frustrations, mais il y a aussi quelque chose de beau que j'ai découvert. J'ai appris à écrire des projets de loi. J'ai appris à écrire
Donnez-nous un exemple, Michela Marzano, d'un projet de loi marzanien, un projet de loi qui
bah alors,
qui
attendez, est... moi, je n'ai déposé quand même une quinzaine.
Alors,
donc,
un exemple,
j'ai déposé un projet de loi pour la modification de la loi sur l'adoption. C'est-à-dire, en Italie, il y a un double registre.
Et là, quand même, vous avez pu mener une réflexion. On vous a quand même demandé de mettre en œuvre une réflexion. Il y a des sujets sur lesquels peut-être la réflexion peut paraître un obstacle, mais il y a des sujets difficiles où il faut marquer des limites, concilier des exigences contradictoires.
Oui,
donc
oui,
là, on
non,
vous
non,
a
mais...
quand même demandé de réfléchir, j'espère.
Oui, oui. Non, mais là, le problème, c'est pas tellement la réflexion qui est la mienne qui m'a amené à écrire un projet de loi. C'est qu'après, quand le projet de loi a été discuté en commission, il a été complètement réduit à miettes. C'est ça mon problème.
Qu'est-ce qu'il est
avec
resté,
des arguments, bah très peu, parce que par exemple, enfin, la clé de ces projets-là, c'était réparer une injustice, parce qu'après le thème de la justice pour moi est central. C'est-à-dire, on a un institut en Italie, c'est les placements. Je crois qu'il existe aussi en France. Les placements n'a pas comme mesure à devenir définitif.
Une agence en France ou un institut, oui, oui.
Oui. Non, mais quand je dis un institut juridique, c'est-à-dire il y a des enfants qui sont donnés en placement et le but est celui de rentrer à faire partie de la famille d'origine et de ne pas être adopté. Sauf que dans la plupart des cas, ces enfants, ils ne retournent pas dans leur famille d'origine et donc ils sont adoptés par la suite. Mais souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, ils ne sont pas adoptés par les familles qui les ont accueillis. Et donc, il y a une double séparation.
Ça veut dire qu'au fond, entre le placement qui répond à une urgence initiale et l'adoption qui est définitive, on ne fait pas appel aux mêmes familles, même si elles le demandent.
Absolument.
Et donc, l'enfant se trouve...
C'est tout à vivre une double séparation.
Confié à une première famille, puis à une deuxième, tout en ayant quitté pour des raisons sans doute au départ difficiles, les urgences, déjà sa famille natale, on pourrait dire.
Oui. Alors du coup, il y a eu la discussion d'un projet de loi qui consistait à donner la priorité aux familles d'accueil, sauf si la famille d'accueil était constituée par un célibataire ou par un couple homosexuel. Et du coup, on a créé une injustice parmi les enfants, c'est-à-dire les enfants qui avaient été placés auprès d'une famille entre guillemets traditionnelle avaient droit à être adoptés par la même famille. Les enfants qui avaient été placés auprès d'un célibataire ou auprès d'un homosexuel n'avaient pas ces droits-là. Alors moi, j'ai essayé d'expliquer. J'ai pris plusieurs fois la parole, j'ai fait des discours. D'ailleurs, il y a ça qui restera au Parlement.
Dans les annales du débat, on retrouvera la philosophe Michaela Marzano derrière la députée Michaela Marzano.
Voilà, qui essaie d'expliquer que ce n'est pas possible qu'un législateur introduit une injustice supplémentaire. Donc,
il y a une question de différenciation introduite entre les couples. Et puis, surtout, Michaela Marzano, moi, ce qui me frappe, prenons un instant le débat philosophique avant de revenir à la différence avec le débat politique. Si on a confié déjà au moment du placement, on a considéré que toutes les familles étaient légitimes pour accueillir. Ça veut dire qu'au fond, certaines familles seraient légitimes pour un accueil temporaire et pas pour un accueil définitif.
Bah ça, ça a été l'idée du législateur et c'est encore l'idée du législateur en Italie. Parce que on a un gros problème des conceptions de la famille. C'est-à-dire, en Italie,
oui,
la seule
fois,
famille
le placement,
légitime.
Pour le placement, cette différence-là ne posait pas de problème.
Oui,
c'est ça qui me frappe.
Parce que les placements étaient considérés comme étant à temps déterminé. Donc, on peut éloigner pendant quelques mois un enfant en situation de danger dans la famille d'origine, mais quitte à ce qu'il retourne dans sa famille d'origine, c'est-à-dire dans sa famille traditionnelle. Il y a cette idée que la seule famille légitime est celle constituée par papa, maman et enfant. D'ailleurs, c'est un débat qu'on connaît aussi en France. J'ai vu en marchant pour venir à Radio France toutes les affiches. Il y aura la manif pour tous, une nouvelle manif pour tous, le 18 octobre, ce qui veut dire que même en France, le thème de la famille, c'est un thème qui crée beaucoup de problèmes.
Non, c'est sûr, Michaela Marzano, c'est un débat au cœur de la société et qui croise justement les deux rapports possibles à ce débat, c'est-à-dire un rapport philosophique et puis un rapport politique. Et au fond, on comprend bien que c'est pas tout à fait les mêmes cadres et que le débat, même les thèses puissent un peu bouger d'un contexte à l'autre. Mais ce qui me frappe encore, je voudrais insister une seconde avant de revenir aux différences de ces cas, sur le contenu, on considère quand même à un moment, à travers le placement, qui est quand même pour un enfant jeune, dans un premier déchirement, quelque chose de très important, on considère quand même que le cadre familial, même si c'est une personne seule ou un couple homosexuel, était suffisant, était adéquat. Donc c'est plutôt cette tension, comment se fait-il qu'il y ait cette contradiction entre deux contextes auxquels on confie un enfant.
Oui, mais alors je vous explique que les problèmes, c'est que elles sont très rares, les familles traditionnelles, qui acceptent un enfant en placement en sachant qu'après quelques mois, ils peuvent perdre cet enfant. Du coup, n'ayant pas une autre possibilité, ils sont prêts, enfin le législateur a dit, d'accord, donnons cette possibilité aux célibataires ou aux couples homosexuels, qui sont les seuls qui donne cet accueil. Et donc, vous voyez, quand même, c'est un problème, parce que c'est parce que les familles traditionnelles ne sont pas prêtes à s'occuper des enfants uniquement pendant quelques mois, et qui veulent avoir l'enfant à elles uniquement avec une adoption, que du coup, on considère qu'on peut leur laisser, on peut laisser les enfants aussi à un célibataire ou à un couple homosexuel.
Et alors, les frontières symboliques, Michaela Marzano, elles changent un peu d'un pays à l'autre. C'est-à-dire là, on s'aperçoit qu'il y a une frontière entre le placement et l'adoption. En France, il y a une frontière entre l'adoption et la filiation. C'est-à-dire, un couple homosexuel peut adopter en France, mais ne peut pas encore aujourd'hui, un couple homosexuel féminin, par exemple, n'a pas accès à l'insémination artificielle en France. Donc, il y a une autre frontière. Comment est-ce que vous voyez la différence entre les pays? Est-ce que, par exemple, la religion catholique en Italie a une influence qu'elle a aussi en France, mais d'une autre manière? Comment est-ce que vous voyez la différence entre les pays, et à la fois dans le contenu des problèmes et dans la manière de débattre, la manière de définir des seuils, des compromis, des positions, en respectant quand même des principes de justice, au moins dans les cadres du débat, même si sur le fond... tel ou tel, et je comprends vos frustrations là sur le fond, je peux être quand même choqué par telle ou telle position, mais est-ce que pour le cadre du débat, la forme de la discussion pour vous respecte quand même des règles de justice?
Alors, le problème en Italie, c'est que il n'y a pas comme en France, même si j'ouvre et puis je ferme une parenthèse, encore faudrait-il savoir jusqu'à quand en France ce sera un principe fondateur de la République, mais je disais, en Italie, il n'y a pas le principe de laïcité. L'Italie, c'est un pays où il y a...
J'espère quand même qu'en
Concorde...
France, il restera. Le problème en France actuellement, pardon, la digression sur la digression...
Non, mais c'est important.
C'est plutôt que la laïcité est mise à toutes les sauces. Le mot restera, en tout cas, la chose, effectivement...
Oui, mais justement, moi, je pense qu'il faudrait et qu'en France, on réfléchisse à l'importance de la laïcité qui a permis des lois qui respectent la justice et qui respectent l'égalité entre les gens indépendamment des différences, à la différence de ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer en Italie, où de facto, nous ne vivons pas dans un pays où la laïcité est une valeur. C'est-à-dire, dans les débats auxquels j'assiste, la religion est un argument utilisé par les législateurs afin de dire qu'une norme ne peut pas être votée ou qu'une norme est contraire aux valeurs catholiques qui sont fondateurs de la République en Italie. Donc à ce moment-là, j'ai mesuré mieux l'importance de la valeur de la laïcité, du principe de laïcité en France.
Et ça, avant d'être députée, Michela Marzano, vous n'en aviez pas forcément conscience que la Constitution italienne permet d'invoquer des normes religieuses dans un débat politique, effectivement.
Alors,
peut-être vous étiez devenue française.
J'étais devenue française, parce que désormais, quand même, en dépit du fait que mon accent est encore très fort, mais je vis en France depuis 20 ans.
Et donc, l'accent, c'est l'entre-deux dans le corps.
Oui, les fameux entre,
absolument. On ne va pas le regretter, on va plutôt vous remercier de cet accent, parce que je pense qu'il nous fait sentir cet entre-deux qui est l'Europe elle-même.
Oui, mais là, du coup...
Vous avez un accent européen, hein, Michela?
Oui, j'ai un accent, non, j'ai un accent italien, complètement italien.
Parlant français avec un accent italien, ça incarne quelque chose de l'Europe.
Mon être européen.
Voilà, le corps de l'Europe.
Mais en tout cas, il est vrai que, tout en sachant qu'en Italie, il n'y avait pas cette valeur de laïcité si fort qu'en France, je dois avouer que j'étais un peu choquée en assistant aux débats qui ont lieu au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale
italienne.
C'est-à-dire
pour vous, ça franchissait ce qui en France, en effet, est une séparation importante, c'est-à-dire l'idée qu'on peut invoquer des normes pour son comportement individuel, des normes religieuses, des règles religieuses, mais dans le débat public, on doit se baser sur des arguments politiques.
Ben disons que, par exemple, en Italie, j'ai découvert que pratiquement personne, sauf les philosophes, les collègues universitaires, personne ne connaît la philosophie que, par exemple, il y a une possibilité d'évoquer que la société est juste si et seulement si on respecte les différentes visions qu'on peut avoir du bien. Or ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en Italie. En Italie, la société est juste si et seulement si elle est conforme aux règles qui sont les règles du catholicisme. Donc vous vous rendez compte de la différence quand même.
C'est vrai que John Rawls, que vous évoquez, avait repris la théorie du contrat, à la fois pour la justice sociale, essayer de découvrir un accord possible entre tous les membres d'une société sur la justice sociale, et aussi sur les croyances religieuses, qu'il appelait doctrine compréhensive, c'est-à-dire le politique doit permettre à toutes les croyances de coexister dans un espace
absolument
pluraliste, raisonnable, comme il disait. Et au fond, on espérait qu'effectivement, sans même lire John Rawls, le but d'une démocratie parlementaire est bien celui-là. Michela Marzano, je voudrais revenir sur les deux casquettes, les deux manières que vous avez de vous rapporter au monde, enfin en dehors de votre vie, elle-même, qui est peut-être la plus importante évidemment, mais disons la casquette philosophique et la casquette politique, puisque vous êtes à la fois professeur de philosophie et député au Parlement italien. Il y avait une phrase très méchante de Jean-Paul Sartre à propos de Raymond Aron, je ne sais pas si vous vous en souvenez. À l'époque, les intellectuels, donc Aron, Sartre, avaient évidemment tous deux casquettes, c'est ce qui définit définit l'intellectuel en un certain sens. Et c'est pourquoi, à mon avis, votre double casquette pousse très loin la figure de l'intellectuel, c'est-à-dire un engagement politique, parfois journalistique, et une compétence scientifique, parfois professorale. Et Jean-Paul Sartre disait méchamment sur Raymond Aron, Raymond Aron est professeur au Figaro et journaliste à la Sorbonne. Ça voulait dire il mélange les rôles, c'est-à-dire voilà, il est professeur et journaliste, mais il est un peu pompeux dans ses articles et il est engagé dans ses cours. Et ce serait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait être professeur à la Sorbonne et journaliste au Figaro. Bon, je me disais en vous écoutant tout à l'heure, Michela Marzano, qu'au contraire, vous avez vraiment essayé d'être député au Parlement italien. Enfin, vous avez peut-être voulu être un peu professeur au Parlement italien, mais ça a résisté. Vous avez essayé d'être pleinement député au Parlement italien et pleinement, en restant pleinement professeur à la Sorbonne, à Paris Descartes. Donc, on va peut-être faire retour aussi vers votre activité philosophique. Comment est-ce que votre activité philosophique a été influencée par votre pratique politique? Est-ce qu'il y a eu un effet de retour de votre activité parlementaire que vous nous décriviez sur votre activité de professeur à la Sorbonne, une partie de la Sorbonne, disons Paris 5, qui est une faculté aussi très interdisciplinaire avec des sciences sociales et la médecine?
Alors, il y a eu un impact, oui, et très fort, que j'imaginais pas. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que peut-être j'étais beaucoup trop abstraite avant. Enfin, et pourtant, j'ai jamais fait une philosophie abstraite. Hein. J'ai
au contraire,
toujours
essayé de faire une philosophie incarnée.
C'est vrai. Mais du coup, l'effet de mettre les mains vraiment au débat parlementaire par rapport à des thèmes qui concernent l'adoption, qui concernent la procréation médicale, même si j'avais fait des entretiens au sein de l'hôpital pour pouvoir publier sur l'insémination avec don, donc j'avais été confrontée au réel, mais là j'ai dû passer par un autre réel qui est pourtant les réels qui est en train de nous former, c'est-à-dire les réels politiques, parce qu'après nous vivons dans un cadre qui est les cadres des normes qui sont voulues par les législateurs, et quand on est au sein même du débat, eh ben, on a la possibilité de comprendre quels sont les enjeux qu'il y a derrière certains choix. Et donc, j'ai commencé à expliquer à mes étudiants comment et pourquoi on arrive à avoir certaines lois. Enfin, il y a eu tous les moments où il y a eu la contestation très forte par rapport à la loi travail. Moi, la loi travail, on l'avait votée
en France.
C'était en France. Et c'était très intéressant parce que nous, en Italie, on avait voté exactement la même loi. Enfin, moi, je l'avais pas votée. Hein. J'ai pas voté cette loi, donc j'étais en dissensus par rapport au Parti démocrate. Mais c'était intéressant de voir les étudiants qui s'intéressaient à la loi travail sans savoir parfois comment ça se passe réellement au sein de l'Assemblée nationale, parce que même les gens en France, les fameux frondeurs qui étaient contraires, au bout d'un moment, ils se sont rangés. Donc, c'est-à-dire, moi, ce qui m'a apporté ma présence au Parlement, c'était une présence très forte d'un réel qui est fait pas uniquement par des faits, mais aussi par une idéologie politique, mais qui parfois est plus importante même que les faits réels.
Ce qui est très intéressant, Michela Marzano, dans ce que vous dites là, c'est cette distinction entre les deux réels. C'est-à-dire déjà dans votre première vie, j'allais dire, qui est toujours présente évidemment, dans le choix de vos problèmes philosophiques, vous aviez ce souci non seulement du réel, j'allais dire de parler, comme tous les philosophes, j'espère, de choses qui affectent la vie humaine, mais de suivre une certaine actualité, de voir un peu comment l'insémination artificielle, des techniques peuvent changer les rapports sociaux, moraux, la paternité, le rapport, les relations les plus profondes entre les hommes. Voilà déjà une première épreuve du réel, c'est-à-dire c'est des techniques nouvelles qui viennent changer nos conceptions. Et en même temps, là, vous dites, il y a un deuxième réel qui est le réel social autour de cette réalité qui est aussi sociale mais qui est d'abord technique. Et c'est le réel des discours, c'est le réel des conflits, c'est le réel des positions. Et au fond, la pensée est prise entre ces deux réalités. Mais en même temps, il faut en prendre conscience. C'est une illusion de croire d'abord que la pensée est loin du réel, mais aussi qu'elle n'est que dans un rapport de contemplation d'un problème objectif. Et elle est prise aussi dans les conflits humains, les conflits politiques.
Oui, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. J'ai appris en étant là-dedans. Et d'ailleurs, jamais plus, je pense parce qu'il faudrait jamais dire jamais, mais je crois que jamais plus j'aurais tendance à critiquer facilement l'activité politique en tant qu'un intellectuel extérieur. Parce que là, en passant des heures, des nuits entières au sein d'une commission ou à l'intérieur de l'hémicycle, je sais qu'il est beaucoup plus facile de critiquer en étant à l'extérieur, quand en principe tout est facile, on se met en accord avec soi-même et ses propres théories, on va se confronter à une réalité, mais on fait rentrer aussi la réalité à l'intérieur de son cadre intellectuel, que de se confronter à un certain nombre de gens, chacune devant répondre à son propre parti et passant des heures parfois sur une virgule qui fait que tout change à l'intérieur d'un texte de loi. Et donc, c'est vrai que du coup, j'ai appris beaucoup. Alors après, si je suis vraiment capable de transférer tout cet acquis à mes étudiants, bon, bah là, c'est peut-être une autre chose encore.
C'est très passionnant ce que vous racontez là. Ça me rappelle aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce spectacle de Joël Pommerat qui est passé dans beaucoup de pays maintenant et qui porte sur la Révolution française et nous plonge le public au sein de l'Assemblée constituante française et dont la thèse est un petit peu justement que les grandes lois politiques, par exemple la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen en 1789, n'est pas sortie d'un cerveau de Jupiter toute faite, mais du débat avec sa contingence, sa fatigue, le hasard des circonstances dans un Parlement français en ébullition. Donc il y a cette part aussi très concrète, on retrouverait presque le corps au fond, de la fatigue, des corps qui s'affrontent, des voix, des accents, des prises de parole, peut-être des jeux de pouvoir dans la parole, qui font aussi le politique concret.
Oui, et d'autre part, c'est un théâtre aussi, hein, parce que le Parlement, c'est vraiment un théâtre où chacun est en train de jouer son rôle. Et ça aussi, c'est assez étonnant. Parfois, on passe une demi-heure en train de faire tout un discours. Après, on sort de l'hémicycle, on va prendre un café à la Buette et on a un discours qui contredit complètement ce qu'on vient de dire au sein de l'hémicycle. Donc là, ça a été la découverte aussi du fait qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ne croient pas réellement en ce qu'ils sont en train de dire, sans se rendre compte, du coup, que la désaffection de plus en plus profonde qu'il y a vis-à-vis de la politique de la part des citoyens est liée au fait que les citoyens n'est pas là sans se rendre compte de ces côtés fictionnels, de ces côtés presque mensongers qui est porté par la parole politique.
Ça, c'est un apprentissage très important et j'espère que vous pourrez en témoigner, hein, écrire là-dessus, Michela Marzano, mais il y a peut-être un autre apprentissage. Je me demandais si vous l'aviez fait. Est-ce que intuitivement, comme ça, je me disais que vous êtes peut-être passé d'une intention qui est de défendre des idées que vous aviez déjà dans le politique et puis à l'épreuve du débat politique. Est-ce que vous n'avez pas fait aussi la rencontre, non seulement de l'épaisseur du débat, mais des limites et de certaines positions inacceptables? Est-ce que votre position, est-ce que le but n'a pas changé? Est-ce que votre position n'a pas un peu consisté à passer de l'idée de faire passer son idée à l'idée plutôt de refuser des choses qui vous paraissaient inacceptables, marquer les limites de l'acceptable, surtout dans un contexte où l'Europe, dans tous les pays, est confrontée à des thèses extrêmes de tous côtés? Comment avez-vous fait l'épreuve de l'extrême, l'épreuve de l'irruption, de la transgression actuelle, de ce qu'on appelle le populisme, sur certains sujets, vient quand même nous bousculer et on est aujourd'hui un peu en train de se dire bon, on va peut-être pas arriver à faire tout passer, mais au moins essayons de faire que tout ne passe pas, c'est-à-dire que certaines positions vraiment dangereuses ne soient pas adoptées. Est-ce que vous avez expérimenté ce mouvement un peu plutôt de résistance face à l'inacceptable plutôt que de volonté de...
Frédéric Worms, vous avez tout à fait raison, ça c'était peut-être l'expérience la plus forte, c'est-à-dire l'expérience du fait que parfois il faut dire non, même si la direction du président du groupe, du président du parti est celle de dire oui. Moi, je me souviens, et je pense que j'oublierai jamais, la première fois que j'ai voté en dissensus par rapport à mon groupe parlementaire. D'une part, j'avais le sentiment que je n'étais pas en train d'agir bien parce que j'étais en train de désobéir, mais d'autre part, je ne pouvais que désobéir.
Là, vous aviez ce qu'on appelle, chez Rawls, justement, que vous citiez, le philosophe John Rawls, une objection de conscience à faire valoir.
Alors, d'une part, et puis, d'autre part, la constatation du fait, en revanche, que la plupart des parlementaires, alors après, ils vont me détester, heureusement, ils n'écoutent pas France Culture en Italie, mais ils ne font que obéir aux ordres. Au point que, il y a certaines personnes que j'ai surnommées, alors ça va être très fort à entendre, Eichmann. Les chefs disent qu'il faut faire, ils exécutent sans même savoir ce qu'ils sont en train de voter. Le président de mon groupe parlementaire a été quelqu'un qui, face à des objections que je lui ai posées une fois, quand j'étais en train de lui expliquer les raisons pour lesquelles je n'allais pas voter la loi qu'on était en train de voter, il m'a répondu, mais Michela, tu es en train de me faire des objections qui concernent les contenus ne m'intéressent pas.
Mais est-ce que ça va jusqu'au bout de ce que vous pouvez mettre sous ce nom terrible que vous venez d'évoquer de Eichmann? C'est-à-dire, chez Eichmann, il y a deux choses terribles. Il y a d'abord, en soi, effectivement, l'idée que l'exécutant exécute, obéit sans réfléchir, sans objection de conscience. Et puis, il y a évidemment les actes d'Eichmann qui sont quand même très extrêmes. Et il a quand même déporté à lui tout seul tous les Juifs hongrois. Et donc, il savait quand même ce qu'il faisait. On va pas revenir sur ce débat. Et il y avait quand même des actes extrêmes. Est-ce que quand même, dans l'exemple que vous prenez, c'est seulement un des deux aspects?
C'est déjà
mais important.
Mais c'est important parce que le problème, c'est que, alors, vous savez que moi, j'ai une passion pour Anna Arendt, elle explique que tous les mal commencent à partir du moment où on arrête.
L'absence
de
réflexion, dit-elle, la thoughtlessness, l'absence de pensée dans l'action.
L'incapacité de se mettre à la place de l'autre. À partir de ces moments, étant donné que parfois on a voté des choses où on était incapable de se mettre à la place de l'autre, on dit, mais jusqu'où peut-on aller? Alors ça, c'est un aspect. Après, il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est-à-dire la découverte du populisme au sein du Parlement.
Là, on en vient un peu au deuxième risque.
Absolument,
en fait.
C'est-à-dire la présence très forte au sein de cette législature du mouvement 5 étoiles. Alors, le mouvement 5 étoiles est vraiment un mouvement populiste qui ressemble énormément au Front National, avec un peu la même tendance à vouloir séparer les hauts du bas, à vouloir mettre les uns contre les autres, et les discours qui consistent à diaboliser systématiquement toute forme des compétences spécifiques et d'élitisme. Or, on ne peut pas considérer qu'une compétence ne vaut rien et parce qu'il y a une égalité par rapport à la place que l'on occupe. Alors, évidemment, il y a l'égalité en termes des droits, et ça, on ne peut pas arrêter de la défendre. Mais d'autre part, si j'occupe une certaine place, il faut que je puisse l'occuper par rapport à un certain nombre de compétences que
Bien
j'ai.
Bien sûr, le docteur sinon connaît un peu la médecine quand
absolument,
même, espérons.
Absolument, absolument. Mais tout ça est balayé.
Ce qui est très frappant dans ce que vous dites, Michela Marzano, c'est que vous avez vécu un contraste, au fond, très violent. C'est-à-dire, d'un côté, voilà un parti italien qui vient vous chercher, qui vous dit que vous êtes philosophe, compétente sur des questions sociales. Vous avez travaillé dans plusieurs pays européens. Donc, on est dans un cadre démocratique plutôt respectueux de cette relation au savoir, aux expertises. Et puis, au moment où vous acceptez cet engagement, voilà que le populisme arrive en Italie et en Europe aujourd'hui et qui fait exactement le contraire. Donc, c'est pas seulement que vous avez vécu une tension entre deux régimes de parole, la science et, disons, la politique, mais vous avez vécu vraiment un contraste très violent qui est celui de l'Europe d'aujourd'hui. Et peut-être, votre expérience est-elle particulièrement importante de ce côté-là? C'est-à-dire avoir fait l'expérience de l'irruption aujourd'hui de cette parole politique système, entre guillemets, anti-compétence. Est-ce que vous croyez que c'est un danger imminent, très profond, qui a encore des barrières, qui a encore une résistance, qui a encore que face à son entrée, on est en train de prendre conscience de quelque chose?
Alors moi, je suis très préoccupée parce que je pense qu'on est face à un double problème. C'est-à-dire, d'une part, on a, et c'est vrai, on a une élite politique et aussi économique, qui a eu tendance ces dernières années à ne jamais respecter la parole donnée, c'est-à-dire à faire de l'incohérence sa ligne politique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis en train de soutenir quelque chose un jour et 3 mois plus tard, je suis prêt à soutenir l'opposé même.
Pour des raisons d'opinion, pour suivre à la poursuite de l'opinion.
À la poursuite de l'opinion, d'une part, et d'autre part aussi pour rester. Alors, il y a un mot très beau de Victor Hugo, quand on devient député, les maîtres mots deviennent durer, c'est-à-dire rester, être élu à nouveau, être à nouveau investi par son propre parti. Et du coup, on est prêt à n'importe quel genre de compromis pour pouvoir durer, pour pouvoir rester. Et puis, donc, les gens très mécontente, parce qu'évidemment, quand on trahit, les gens ont trahi leur confiance, qu'est-ce qu'ils font? Elles se retournent vers une parole qui flatte les sentiments les moins, comment dire, les plus viscérales, et c'est-à-dire cette tendance à croire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. N'importe qui peut occuper n'importe quelle position, ce qui est faux. Mais en même temps, c'est qui flatte aussi, évidemment, les gens.
En un sens, ça flatte un sentiment noble, qui est un sentiment démocratique, un sentiment d'égalité, mais ça le prend par le mauvais côté.
Absolument.
Et comme les théories du complot qui visent, au fond, qui renversent le doute démocratique en soupçons violents, c'est une renversion, une perversion des sentiments démocratiques.
Absolument, absolument. Et en plus, un discours qui est tenu par des gens qui, franchement, n'ont pas vraiment des compétences. Donc, alors, moi, je me dis, si les 5 étoiles devaient gagner les prochaines élections, et si le Front National devait gagner les prochaines élections ici en France, ce serait une véritable catastrophe. Parce que du coup, c'est le discours de la haine. Ce qui explique aussi la qualité complètement dégradée en ces moments du discours public. On n'est pas capable d'argumenter, on s'insulte. En Italie, c'est quand je suis arrivée, j'étais absolument étonnée de cette incapacité logico-argumentative, cette tendance à ne pas savoir argumenter et insulter. Et en fait, en France, c'est exactement la même chose.
Donc ça s'entend, vous l'entendez presque dans l'oreille, dans le langage, vraiment, on entend tous les problèmes de l'Europe dans la manière de parler en politique aujourd'hui.
Absolument.
Qu'est-ce que vous recommanderiez, Michela Marzano ? Ce sera mon avant-dernière question, malheureusement, dans cette conversation qui va beaucoup trop vite. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour résister après cette expérience double ?
Non, mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il faut recommencer du début, c'est-à-dire par l'éducation. Il faut repenser l'école. Alors moi, je voudrais qu'en Italie comme en France, les ministres de l'enseignement supérieur soient conscients du fait que si on ne recommence pas à donner aux plus petits les instruments par penser par eux-mêmes et par penser de façon structurée, nous n'arriverons jamais à avoir une société demain capable de soutenir un discours valable et qui ne chute pas dans les oppositions populistes, dans la diabolisation de l'autre et dans tous les discours finalement qui risquent
donc
vraiment de mettre en danger la démocratie.
Apprendre aux enfants à discuter finalement ce qu'on est en train de faire un petit peu, c'est-à-dire défendre une position, dire quelque chose et puis essayer de l'expliquer, puis après avoir l'autre qui n'est pas d'accord et finalement apprendre aux enfants à discuter entre eux, disputer dans le langage plutôt que se disputer par des coups déjà.
Et recommencer aussi à écouter, parce que moi je me suis rendu compte, mais ça c'est vrai à l'université comme au Parlement, que peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire aujourd'hui, c'est écouter, là où écouter signifie entendre la parole de l'autre. Là où entendre la parole de l'autre signifie essayer de faire de la place en soi, afin que l'altérité soit reconnue comme telle. Aujourd'hui, on a tendance à rejeter l'altérité, n'importe quelle altérité, peu importe l'altérité dont on parle, et à vouloir tout reconduire à l'identique. J'accepte l'autre si et seulement si l'autre est identique à moi. Et c'est ça qui empêche l'écoute, et c'est ça qui fait que l'insulte est toujours là, au bout des lèvres.
Et c'est absurde, parce que si on veut être écouté soi-même, il faut évidemment montrer qu'on peut écouter l'autre. Et du coup, dernier mot, vous êtes universitaire à Paris, en France, vous dites qu'à l'université même, on n'écoute plus. Qu'est-ce que là, vous avez envie de faire qu'est-ce que vous avez envie de changer aussi dans vos pratiques d'enseignement? Qu'est-ce que vous pensez que l'université peut encore faire dans le monde politique, dans l'Europe d'aujourd'hui, face à ces régimes de parole qui l'envahissent aussi, qui la menacent aussi?
L'université a beaucoup de choses à faire. Encore faudrait-il toutefois que l'université ne devienne pas une sorte d'entreprise. Parce que là, ce à quoi nous sommes en train d'assister en Italie, en France, en Angleterre, partout en Europe, c'est aussi la tendance de plus en plus à une managérisation de l'université et de l'école. Or, si nous ne revenons pas à la pensée et à l'argumentation, nous risquons de nous retrouver dans une société de démons faite par des cris, des insultes et un populisme de plus en plus criant.
Voilà notre discussion qui a circulé entre deux espaces de discussion, l'université et le Parlement. Vient très logiquement montrer que la discussion est vitale pour nous tous aujourd'hui. Merci d'y avoir participé ce soir, Michela Marzano. C'est très important pour l'Europe d'aujourd'hui et pour nous tous. Merci beaucoup.
Merci à vous, Frédéric Worms.
Les discussions du soir, Michela Marzano, Claire Poinsignon, Jason Taous, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.